Merci beaucoup Yannick et merci à Entrevue de nous permettre de présenter, c'est la première fois, donc cet ouvrage intitulé Front unique, la traversée du surréalisme de Jean-Jacques Lebel, qui, comme tu l'as dit Yannick, donc, concerne d'abord et avant tout donc, une revue que Jean-Jacques a mis en circulation, donc on va refaire un peu cette histoire ce soir. En Italie en 1955 et qui s'est intitulé Front unique. Alors pour entrer dans le vif de cette présentation, j'ai préparé quelques images qui vont permettre d'entrer, qui émanent directement du livre, hein, qui vont permettre d'entrer un peu dans le vif de cette revue Front unique, donc qui démarre à une certaine époque, à un certain moment historique. Et peut-être que Jean-Jacques va commencer, enfin, je vais commencer par t'interroger sur le contexte finalement qui est celui d'apparition de cette revue en 1955 en Italie et à Florence. Puisque pour dire simplement un mot avant de te donner tout de suite la parole sur ce contexte italien et sur ton désir de revue à cette époque, je voudrais juste indiquer que donc, le livre que vous pourrez consulter et qu'on présente ce soir se compose finalement en trois grands ensembles. Il y a une présentation, une introduction qui présente un peu sous la forme d'un essai, disons, une entrée dans cette revue Front unique. Ensuite, la restitution sous la forme de fac-similé ou disons, de retranscription de l'ensemble des numéros de cette revue. On y reviendra, parce qu'elle a
Sept
connu, voilà, sept numéros sous la forme d'affiches, puis ensuite deux numéros sous la forme, disons, d'une revue brochée, comme on les connaît habituellement. Et ensuite, on a conduit ensemble un grand entretien qui couvre, si ma mémoire est bonne, au moins 70 pages, et qui, disons, retrace toute l'aventure donc de Jean-Jacques Lebel au sein du mouvement surréaliste. Voilà, donc pour indiquer la structure générale de ce livre. Et donc maintenant, entrons peut-être dans le vif du sujet avec une première image qui va peut-être nous permettre de te situer d'abord toi au sein du groupe surréaliste. Parce que derrière toi, j'ai mis une image donc d'une de tes pièces de 1955 qui s'intitule Chanson pour Elisa. Donc, qui est composé à la fois d'un dessin et d'un manuscrit d'André Breton, donc qui s'appelle Chanson et dédié à Elisa Breton. Et puis aussi une page d'une revue qui s'appelle Bief, à laquelle tu as participé un peu plus tard. Et cette photo, qui est quand même assez fameuse, on te voit auprès d'André Breton et d'autres membres du groupe surréaliste inaugurant donc le monument à Guillaume Apollinaire. Alors, peut-être pour commencer, ton rapport à ce groupe surréaliste du tout début des années 50, avant finalement ton départ pour l'Italie, où là tu vas finalement décider d'initier une revue qui t'est propre et qui va s'appeler donc Front unique. Peut-être commençons par là, ta place dans le surréalisme, tout jeune homme finalement dans ces années, au début des années 50, avant ton départ pour l'Italie.
Je voudrais un tout petit moment, dire quand même que pour moi c'est très émouvant d'être ici, avec vous, dans cet immeuble, parce que peut-être vous ne le savez pas, ou peut-être vous l'avez oublié, ou peut-être vous le savez, c'était la place d'une prison, la prison du Cherche-Midi, qui a été démolie. C'est là qu'a eu lieu l'enfermement et le procès du réseau Janson. En plein Paris, c'est là qu'ont été arrêtés les membres du réseau Janson, qui était un réseau d'intellectuels et de militants révolutionnaires. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, qui ont pris fait et cause pour les combattants algériens qui luttaient pour leur liberté contre le colonialisme français, après 130 ans d'occupation militaire, administrative et religieuse de l'Algérie. Et en 1954, il y a eu l'insurrection déclenchée par le FLN, et à ce moment-là, un certain nombre de personnes, dont j'étais pas, parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais j'étais pas loin, ont aidé et ont pris fait et cause pour les Algériens combattants, et on les appelait, et on les appelle toujours, les porteurs de valises. Et donc c'est ici, sur cet emplacement, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il faut se souvenir que de ce que disait Debord, quand même, que le vrai discours du capitalisme, c'est l'urbanisme. C'est l'architecture et l'urbanisme. Et c'est pas faux, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y a la Maison des sciences de l'homme qui a pris la place de la prison du Cherche-Midi, et nous voilà. Mais il faut qu'on ait de la mémoire, quand même. Il faut savoir où on met les pieds.
On va rappeler justement cette mémoire quand on parlera du manifeste des 121 un peu, et de sa relation.
Et donc, front unique. D'abord, c'est un jeu de mots, parce que c'était le mot d'ordre de la CGT et du Parti communiste, qui évidemment m'horripilait et m'horripile toujours. Et j'ai piqué ce titre aux staliniens, et parce que, en fait, le premier numéro de la revue, c'était une affiche qu'on collait sur les murs, et c'est moi qui ai écrit tous les articles sous des pseudonymes différents. Donc c'était une sorte de déclaration d'humour, comme quoi il y avait une pluralité de participants, mais en fait c'était moi qui signais tous les articles. J'avais 19 ans, j'étais en révolte absolue, comme tous les adolescents du monde. Je ne voulais pas entendre parler d'éducation nationale ou autre, ni de famille, tout ça me faisait vomir. Et je me suis réfugié à Florence pour essayer de comprendre ce qu'est l'art, hein, l'art de la Renaissance d'abord, et surtout pour fuir, respirer un autre air. Et c'est là que, comme une bouteille à la mer, j'ai inventé cette revue sous forme d'affiche. Et donc, à 19 ans, j'ai fait ma première exposition à Florence. Et la première affiche était en quelque sorte un catalogue, entre guillemets,
On va la voir un peu plus loin. Peut-être, justement, parce que j'avais fait une petite sélection, et la première partie ce vers quoi j'aimerais qu'on aille, c'est que tu arrives à Florence, donc dans un certain climat intellectuel et politique, tu y fais des rencontres. Là, j'ai mis sous les yeux de nos auditeurs une photo de toi de 1955 avec Hérault. Tu rencontres justement Hérault à Florence à ce moment-là.
Mon meilleur ami, oui, depuis cette époque-là.
Qui est resté ton meilleur ami. Et quel est le contexte de l'Italie à cette période?
Catastrophe totale, parce qu'il y a eu plus de 30 ans de fascisme, et donc de censure et de dictature. Et ça avait complètement coupé les Italiens et les Italiennes de tout ce qui se passait dans le reste du monde. Ils étaient au courant de rien. Alors, il y avait le Parti communiste italien, qui était très puissant, le plus puissant de tous les partis communistes de l'époque, qui était moins stalinien que le Parti français, mais quand même stalinien. Et il y avait l'Église et les fascistes qui tenaient le haut du pavé. Donc, c'était Don Camillo et Pépone, hein, pour aller vers la caricature. Mais ce n'était pas faux comme caricature. Alors, ils étaient au courant de rien, sauf du futurisme italien qui était, comme vous savez, comme tu sais, assez pro-fasciste à ses débuts. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était Dada, la révolte Dada, la révolution sous toutes ses formes, et ensuite le surréalisme. Ils ne savaient même pas ce que c'était, parce qu'ils avaient été enfermés dans le fascisme à partir de 1922. Et donc, je me retrouvais dans un pays où il y avait des chefs-d'œuvre à tous les coins de rue, dans tous les musées, toutes les églises, c'était absolument bouleversant. Et en même temps, il n'y avait personne avec qui dialoguer. Il n'y avait pas d'être humain avec qui on pouvait échanger des idées. Et donc, c'était une sorte d'exil.
Il y avait les peintres quand même de la Renaissance. Parce que dans l'entretien, tu nous apprends, moi je ne le savais pas, que lorsque tu arrives à Florence, tu contribues à restaurer, tu fais un stage. Ah, oui. Et donc je montre derrière toi, là, justement, la fresque d'Uccello à Santa Maria Novella.
Oui. C'est une histoire absolument impensable, n'est-ce pas? Mon père m'avait donné une lettre de recommandation pour un type qui travaillait au musée des offices, là où il y a tous les chefs-d'œuvre, enfin une grande partie des chefs-d'œuvre, et il cherchait toujours des bénévoles pour travailler pour rien. Et il y a une fresque absolument extraordinaire de Paolo Uccello qui était à l'église de Santa Maria Novella, dont Boccace parle, dans le Décaméron d'ailleurs. Vous voyez comme on tourne toujours en rond, a été décollé du mur où elle avait été faite et transporté à grand soin dans un lieu qui était l'orangerie du Palazzo Pitti et mise à l'envers sur des tréteaux et ils cherchaient des bénévoles pour gratter l'arrière de la fresque de façon à ce que la fresque puisse être collée sur une toile et exposée. C'était un travail de 4 ans, c'était terrible. Alors il faisait un froid de canard, c'était pas chauffé, et on avait des espèces de bistouris mouillés qui avaient été donnés par l'hôpital, un des hôpitaux de Florence, et c'est avec ça, moi j'avais 3 manteaux les uns sur les autres, tellement j'avais froid, et je tremblais, et on grattait l'arrière de la fresque, que je ne voyais pas parce que c'était à l'envers, mais j'ai en effet travaillé à ça. C'était bouleversant parce qu'évidemment il faisait tellement froid qu'on tremblait. Une ou deux fois, mon bistouri a transpercé et je me sentais malade d'avoir transpercé la fresque de ce grand Uccello que j'admirais. Mais enfin, ça a été restauré et maintenant, ça s'appelle le déluge. Et voilà, c'est exposé au musée des offices. Et il y avait un tout petit endroit à Florence où les gens, pas comme les autres, entre guillemets, se retrouvaient. C'était la galerie à Numero, qui était dans le quartier des Anglais, parce qu'il y avait des poètes anglais comme Browning et autres qui, au XIXe siècle, avaient vécu à Florence. Et c'est là qu'on se retrouvait le dimanche après-midi. Il y avait des étudiants en histoire de l'art, des artistes, des musiciens, quelques philosophes et quelques rares militants politiques qui se retrouvaient et on discutait. C'est là que j'ai rencontré Héros, en effet. Et c'est là que le grand artiste suédois Öyvind Fahlström m'avait précédé. Mais c'était un tout petit groupe de gens. C'était même pas un groupe, c'était un assemblage hétéroclite qui étaient comme des cheveux sur la soupe dans cette Florence pleine de trésors, mais avec très peu d'êtres humains avec qui avoir des échanges.
Alors, les trésors, justement, on a vu, c'est une des diapositives que j'avais sélectionnées aussi, c'est le fameux percé de Benvenuto Cellini, voilà. Il est présent dans une de tes interventions de front unique où tu racontes qu'un soir, donc, te rendant sur place de la Seigneuria, eh bien tu vois cette statue, puis il t'arrive quelque chose que tu peux peut-être nous rappeler. Tu es renversé par une moto. Tu te rappelles de ces circonstances? Bon, c'est un des textes, donc Front Unique.
Non.
Voilà. Donc tu racontes que tu fais une visite nocturne de cette place assez déserte. Donc la rencontre de la statue là que tout le monde voit de nuit dans des circonstances qui sont celles du Florence des années 50 n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'est une ville hyper touristique.
Ça etc. C'est Donatello.
Non, c'est Cellini, c'est le percé de voilà, Cellini. Ah, et donc tu racontes que cette statue, elle produit un effet particulier sur toi, une sorte d'aventure mentale se déclenche, et au même moment, tu es renversé par une moto, conduit à l'hôpital, un certain nombre d'hallucinations.
J'avais plus ou moins oublié cette histoire,
voilà.
Mais et tu me la rappelles. C'est...
Voilà, et ça remet, disons, en quelque sorte, tes pas, évidemment, du côté de la Renaissance, et en même temps d'une histoire qui ressemble beaucoup à certaines histoires qu'on a lues sous la plume de Breton. Comme si tu refaisais pour toi-même, à travers donc, cette expérience où tu es loin de Paris, etc., quelque chose de finalement du parcours surréaliste, mais que tu refais tout seul pour toi en Italie à distance de...
Avec beaucoup de difficultés. Hein.
Oui.
beaucoup de difficultés, parce que c'était quand même la civilisation catholique. Le Vatican était encore beaucoup aujourd'hui dominant, n'est-ce pas ? Ça domine tout. Parce que même les soi-disant communistes faisaient baptiser, faisaient faire la première communion à leur progéniture. Il y avait quelque chose d'arrêté dans le temps, n'est-ce pas ? Comme s'il n'y avait aucune modernité en Italie. Ce qui, évidemment, était faux. Parce qu'il y avait un tas de gens qui avaient envie de vivre et de repenser le monde, mais ils n'avaient pas le droit de citer. Et donc, j'ai commencé beaucoup à lire. Hein. C'est surtout par la lecture. Je me souviens que une des choses qui m'ont le plus marqué à l'époque, parce que je me baladais le dimanche, avant de quitter Paris, quand j'avais 13-14 ans, et je me faisais une petite bibliothèque d'adolescents avec les choses que j'achetais pour quelques centimes auprès des bouquinistes. Je suis tombé sur une brochure de Bakounine qui s'appelait « Dieu et l'État ». Et je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est un texte remarquable. Il a parfaitement expliqué comment la hiérarchisation de classe et idéologique de la société capitaliste qui se veut moderne était en fait calquée sur la hiérarchie de l'Église. Et pour faire tomber l'un, il fallait faire tomber l'autre. Et quand on a 13-14 ans et qu'on croit avoir compris ça, c'est déjà pas mal.
Mais finalement, dans le titre de Front Unique, t'as donné une des clés pour en expliquer le sens. Prendre, disons, à une tradition marxiste ce terme de Front Unique. Mais il y a aussi une autre référence plus souterraine dans le titre de Front Unique et qui rejoint plutôt l'histoire de l'anarchie. Est-ce que tu... Donc revenir sur ce Front Unique et sur ce penseur anarchiste...
Stirner.
Voilà.
Max Stirner, dont c'était le pseudonyme.
Oui.
Et Stirner, en allemand, veut dire front. Donc c'était, comme toujours, un jeu de mots polysémique, un mot à tiroir. Et l'auteur de L'Unique et ses propriétés, Max, qui était un jeune hegélien, donc lui aussi en bisbille avec Marx, et Marx l'attaque beaucoup. Il y a tout un chapitre de l'idéologie allemande qui voulait... Marx essaye de descendre Stirner et il n'y arrive absolument pas. C'est déjà bon signe. À l'époque, j'étais évidemment, comme tous les jeunes gens et toutes les jeunes femmes, attiré par le marxisme, attiré par la révolution marxiste, pas par le marxisme-léninisme, mais par l'idéal, n'est-ce pas ? Et surtout, je l'ai compris un peu plus tard, par le jeune Marx, par le Marx philosophe de Gründrisse, n'est-ce pas ? Et donc, mes lectures à l'époque, c'était Nietzsche, c'était le jeune Marx, c'était les jeunes hegéliens comme Stirner, Feuerbach, etc. Et ça se passait dans une sorte de vase clos, parce qu'il y a quelque chose dont je souffrais beaucoup, et je ne suis pas le seul, loin de là, encore aujourd'hui, c'est que les gens qui s'intéressaient à l'histoire de la philosophie, l'histoire de la poésie et l'histoire des arts ne se fréquentaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui s'intéressaient aux arts, au pluriel, que ce soit la musique, la peinture, l'opéra, enfin toutes les formes d'art possibles, imaginables, ou à la poésie. C'était une sorte de tribu. Et les autres qui s'intéressaient activement et d'une façon militante à la politique, c'était d'autres personnes. C'était jamais les deux ensemble. Et il m'a semblé, à moi, jeune... incapable de m'adapter à quoi que ce soit d'existant dans la société capitaliste, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi tout ça est séparé. Il faut réunir, il faut que les forces vives puissent dialoguer entre elles et unir leurs forces. Et je le pense encore aujourd'hui.
Oui, il y a une figure qui, moi, m'a particulièrement intéressé dans l'introduction à ce livre, c'est, et qui, justement, t'attire pour les raisons que tu viens d'indiquer, c'est que c'est une figure qui circule beaucoup entre les intellectuels marxistes et aussi qui se tourne vers les artistes, c'est Kostas Axelos. Et justement, que tu as accueilli au sein de Front Unique, de même qu'il avait été accueilli par, tu vas nous le raconter, mais par Breton et par ton entremise dans les revues surréalistes. Alors, ta rencontre avec Kostas Axelos, comment est la place qu'il va le prendre finalement au sein de Front Unique? Est-ce que tu veux bien revenir sur cette figure?
Quelle était, dans ces années-là, la situation des intellectuels, intellectuels entre guillemets, de gauche ou d'extrême gauche à Paris ou en France? C'était une tribu extrêmement conflictuelle et séparée, des gens qui s'engueulaient tout le temps entre eux. Alors, il y avait, tu l'as cité, la revue Argument, qui était éditée par les éditions de Minuit, qui était fondée par Edgar Morin, Kostas Axelos, Jean Duvigneau, et à laquelle participait aussi Roland Barthes. Tu vois, c'était assez un large spectre, et qui faisait des réunions mensuelles aux éditions de Minuit, auxquelles je suis allé pour m'informer. Pourquoi est-ce que j'allais dans ces réunions-là? Parce que je ne supportais pas l'université. Je n'ai jamais mis les pieds à l'université, sauf un peu après 68, pour suivre en auditeur libre les cours de Deleuze à Vincennes et à Saint-Denis. Sinon, moi, l'université, moi, je ne peux pas supporter 5 minutes. Enfin, l'atmosphère, c'est comme le Parti communiste ou le Vatican. Moi, je ne peux pas respirer là-dedans. Alors, mais par contre, j'écoutais beaucoup. Je m'informais directement auprès des personnes qui en savaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. J'allais à ces réunions, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Gilles Deleuze, d'ailleurs, qui, lui, à l'époque, était prof à Lyon, et venait à ces réunions aussi. Et il y avait donc le groupe Argument, si on peut appeler ça un groupe, oui, toutes les personnes qui participaient à la revue, et à la remarquable collection de livres Argument dirigée par Kostas Axelos, qui lui-même a rédigé un livre très important sur Héraclite, sur Marx, penseur de la technique, sur Nietzsche, un grand penseur, et ami personnel et traducteur de Heidegger, hein. Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique pour ou contre, parce qu'à l'époque, je parle des années 50, on n'en savait pas grand-chose, oui, encore. Et il y avait d'autres tribus. Kostas Axelos, est très jeune, avait fait partie des maquisards en Grèce contre le colonialisme anglais. Et il y avait un autre groupe, mais communiste, hein, mais communiste de l'intérieur. Il y avait les Grecs qui étaient communistes de l'intérieur et communistes de l'extérieur à Moscou. Et il y avait un autre groupe qui était fondé par Cornelius Castoriadis, Claude Lefort et quelques autres. Castoriadis était lui aussi d'origine grecque, lui aussi grand penseur, très grand penseur, psychanalyste et économiste. Et avec Claude Lefort et Jean-François Lyotard et quelques autres, il avait fondé Socialisme ou Barbarie, qui était un point focal, dynamique, d'une pensée post-marxiste extrêmement pointue et qui se revendiquait comme un courant révolutionnaire, et l'était, de fait. Donc, c'est le groupe s'engueulait entre eux tout le temps. Il y avait d'autres personnages, il y avait les situationnistes, évidemment, qui insultaient tout le monde, quelquefois avec raison, et beaucoup de fois sans aucune raison, sauf le plaisir d'insulter, qui ont fait tout un travail extrêmement intéressant contre le maoïsme, par exemple, contre la religion maoïste, donc c'était très utile. Il y avait ce qu'il restait de la grande constellation surréaliste, en effet, dont on célèbre en ce moment les cendres, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Les cendres, quelquefois un peu vivantes quand même.
Légèrement rougissantes.
Ouais. Oui. Et il y avait un tas de personnages, de petits groupes, plus comme autour de la revue Autogestion. Et il y avait, très important, pas loin, mais pas mélangé à tout ça, ce qu'on appelle le courant antipsychiatrique. Mais qu'il ne faut pas confondre les antipsychiatres, David Cooper et Ronald Lang, par exemple, les Anglais, avec la psychothérapie institutionnelle qui avait commencé à débuter autour de Toscaïès à Saint-Alban, à la clinique de Saint-Alban, où il y avait, par exemple, Franz Fanon qui a fait ses classes, là. Et évidemment, les très jeunes comme Guattari, qui à l'époque était étudiant, la cellule Sorbonne-Lettres, n'est-ce pas, qui étaient des dissidents communistes. Bon, vous voyez, c'est une espèce de constellation qui bougeait tout le temps. Et moi, je n'ai jamais pu contenter d'appartenir d'une façon dogmatique à un groupe. Ça me sort par les trous de nez. Donc je me baladais à ma guise, d'un groupe à l'autre, en essayant de comprendre et d'apprendre.
Mais dans ces années-là, Axelos a quand même un rôle primordial pour toi.
Oui. Que Axelos, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était déjà prof de philo à la Sorbonne, m'a très gentiment pris sous ses ailes, et d'ailleurs d'une façon très douce, parce qu'il a vu que j'étais absolument inadapté à quelques fonctions universitaires que ce soit, mais il m'a quand même donné une liste de livres à lire. Et il me commentait les lectures. Et j'ai une correspondance passionnante avec lui. J'avais 17, 18, 19 ans. Hein. Je ne savais rien. Mais j'étais plein de passion. Et il m'a orienté vers ce qu'on a appelé après le freudo-marxisme. Et au-delà, il a été le premier à traduire et à publier Marcuse dans sa collection, par exemple. Mais aussi Karl Korsch et aussi de grands penseurs de cet ordre. Axelos était un type extrêmement ouvert, extrêmement sympathique, et nous parlions tout le temps, et on est parti en vacances en Grèce, sur l'île de Hydra, et c'est en discutant, le peu que je sais, je l'ai appris en discutant et en écoutant avec des gens comme Axelos, mais aussi beaucoup, 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 en écoutant André Breton.
À qui, d'ailleurs, à tu qui, présentes Axelos.
Pendant des années que j'ai fréquenté presque quotidiennement, pendant 5 ans, et Marcel Duchamp, et Man Ray, et Benjamin Perret, évidemment, j'écoutais beaucoup, j'absorbais comme un buvard tout ça, et ensuite j'essayais de comprendre ce que j'avais entendu et vécu. Moi. C'était ça, mes universités. C'était des êtres humains vivants, la pensée vivante.
Mais pourquoi faire une revue? Donc, alors, tu nous l'as dit, ce premier numéro, enfin, tu nous l'as dit, tu as commencé à nous le dire, ce premier numéro de revue, là, Front Unique, qu'on voit, là, ce que vous avez sous vos yeux, en fait, c'était l'occasion de cette première exposition dans une galerie à Florence, et tu t'es dit, bon, voilà, peut-être qu'il y a un petit, il y a les possibilités financières de faire, non pas un catalogue, mais une publication, voilà. Et ça prend cette forme d'une affiche.
Alors, tu te souviens, au début de notre discussion, qui a commencé il y a 3 ans, tu as orienté ton travail sur les affiches, comme on voit dans la rue, les publicités.
Absolument.
J'ai dit non, Jérôme, c'était pas ça du
tout. Non, c'est pas la source.
C'est tout simplement quelque chose de beaucoup plus direct. Ce sont les affiches de la Commune de Paris. Car j'avais pu, pour, à l'époque, quelque chose comme 3 francs, des francs anciens, des anciens francs, parce que j'avais presque pas d'argent. J'avais un petit subside que mon père me donnait le dimanche pour acheter des bouquins. J'ai acheté une affiche de la Commune de Paris.
Elle se trouve d'ailleurs...
authentique affiche de la Commune de Paris.
Dans le livre.
Je l'ai trouvée sur les quais chez un bouquiniste. Et c'est ça qui a déclenché l'histoire des affiches. C'est pas du tout la pub.
Non, bien sûr.
C'était le fait que j'ai appris après que, par exemple, Victor Hugo, qui défendait, qui n'était pas communard, mais qui a beaucoup défendu les communards, et évidemment Louise Michel, avait fait sur des affiches des proclamations contre les Versaillais qui signaient Victor Hugo. Donc l'affiche était comme une sorte de poème qu'on collait sur les murs en s'adressant à tous les passants, à toutes les passantes. C'est ça qui m'a qui m'a déclenché mon désir de faire des affiches. Mmh. Tu vois.
Et d'ailleurs, il y a
des pubs pour,
bien sûr,
pour et, la bouffe ou le.
Il y a des poèmes parmi les textes qui sont constitutifs de ces différentes affiches.
Est-ce que pour en revenir un instant à Axelos, qui a eu en effet une influence énorme sur moi et que j'ai beaucoup apprécié, c'était donc un philosophe, ce qu'on appelle un vrai philosophe. Il s'intéressait à l'histoire de la philosophie, comme Gilles Deleuze d'ailleurs. Hein, il s'est inscrit dans cette tradition d'analyser tout ce qui avait été pensé avant lui pour essayer d'y contribuer quelque chose de nouveau. Mais il avait ceci de particulier, et que Gilles lui-même a beaucoup apprécié chez Axelos, c'est que pour lui, à l'ancienne, comme dans l'Antiquité grecque, la poésie et la philosophie ne faisaient qu'un. Par exemple, il a analysé pour moi, parce qu'il lisait évidemment le grec ancien, moi non, les grandes tragédies grecques. Par exemple, quand il parlait de Hölderlin, parce qu'il écrivait et il traduisait de l'allemand. Costas parlait 5 ou 6 langues d'une façon très brillante. Et j'ai publié une traduction qui avait été faite par un ami à lui de Hölderlin dans la revue Front Unique. C'est pas mal, hein, ça volait haut quand même. Et donc il y avait des textes des surréalistes que j'avais contactés. J'avais écrit un breton qui m'avait accueilli. Et il y a des textes de Breton, de Perret, de tous les autres surréalistes, y compris de critiques d'art comme Charles Estienne et d'autres, Alain Jouffroy. Je mélangeais tout. Je ne tenais compte d'aucune prohibition. Je n'acceptais aucune limitation. Je mettais dans Front Unique tout ce qui m'intéressait. Voilà. Une espèce de potlatch, une espèce de...
Oui, parce qu'on y trouve à la fois des textes d'ordre politique.
Il
n'y
avait pas de
politique,
logique partidaire ou sectaire là-dedans. C'était tout ce qui m'intéressait. Voilà.
Ce qui était un peu aussi le cas des revues surréalistes de cette époque. D'ailleurs, tu mets en relation Axelos avec Breton.
Oui,
il y a des circulations qui se font aussi.
Ce n'était pas vraiment le cas, Jérôme. Non. Et au contraire, le groupe surréaliste tardif des années 50, c'était au contraire beaucoup sclérosé et beaucoup renfermé comme une huître sur lui-même. Il faut dire la vérité quand même.
Il y avait des mouvements
d'ouverture
dans les deux
mais
sens.
En fait, ça se traduisait par de la fermeture, et très sectaire et très contre tous les autres. Moi, c'était le contraire. Je voulais vraiment me promener physiquement, intellectuellement et politiquement dans l'extrême gauche, mais dans tous les courants puissants de la poésie et des arts vivants.
Et tu penses que la prise de distance finalement italienne a facilité cette tâche en quelque sorte?
C'était bien obligé, il n'y avait rien d'autre. Un particien, si tu veux, mais dans la vie quotidienne, c'était ou les staliniens ou les curés... Ou Titien, évidemment, j'ai choisi Titien.
Alors peut-être qu'on peut avancer encore une.
Mais comment te
Alors,
dire
là, il y a une photo aussi qui est. Là, c'est un autre. C'est le numéro 3 de Front Unique. Donc vous voyez la structure aussi de Front Unique en tant qu'objet, elle hérite quand même aussi de structures de la revue de Medium qui a connu aussi une présentation de cette forme avec un vertébral, etc. Il y a quand même un certain...
Toutes les publications étaient pareilles. C'est le contenu qui changeait.
Bien sûr.
Le format, c'était... Tu sais, je vais te dire, c'est les imprimeurs
qui ont décidé un peu. Ouais.
Parce qu'on n'y connaissait rien. C'est les imprimeurs. Moi, je suis tombé sur un imprimeur qui faisait comme ça et puis je m'en foutais.
Et ce qui est important, c'est que effectivement aujourd'hui cette revue, en tant qu'objet, elle est éminemment fragile parce que c'était du papier.
Elle a été collée sur les murs à Florence, à Paris et dans 2 ou 3 endroits où les amis, les copains, les copines les collaient, mais il n'en reste rien.
Donc là,
c'est l'éphémère absolu.
C'était fait pour.
Mais c'est grâce à ce livre.
Ce livre qui l'a fait rééditer.
Les gens vont peut-être s'y intéresser un peu.
On le souhaite.
Tu as ressuscité quelque chose qui s'était évaporé. Voilà.
Il y a une photo là derrière toi. Tu es avec Mata, justement, à Ischia en 1957. Alors c'est la période justement de Front Unique. Est-ce que tu veux, parce qu'il en est question au moment de Mata dans la revue.
Mata était lui aussi un autodidacte chilien, francophone, un grand mélange de plusieurs cultures, d'origine basque chilienne. Et il avait fait des études d'architecture, il avait vaguement travaillé avec Le Corbusier, et puis il a foutu tout ça en l'air, il s'est mis à faire de la peinture. Et
c'était un peu un modèle pour toi.
C'est un personnage extraordinaire. Je ne veux pas employer le mot charismatique parce que c'est trop banal, mais il était électrifié. Et il délirait, il avait une parole délirante, il inventait son discours en le prononçant, un grand bonhomme. Et il m'a invité à passer l'été 57, il avait loué une maison avec sa femme et ses gosses à Ischia, qui est une petite île en face de la baie de Naples, et nous avons commencé un livre ensemble, un livre de dialogue, et encore une chose qui a disparu, n'est-ce pas, chacun écrivait une page ou dessinait dedans, et je ne sais pas ce que c'est devenu. Ouais. Tu vois, à l'époque, c'était très difficile de, en même temps, préserver des archives et de vivre. Mmh. Alors, on ne pouvait pas faire les deux. Les gens qui archivaient, ne vivaient pas, ne produisaient rien, et les gens qui produisaient, ils n'avaient pas le temps de faire... Alors, ce qui fait que beaucoup de choses se sont perdues.
C'est vrai que le choix de Front Unique comme affiche témoigne bien de ça. Enfin, on affiche, c'est pas grave. Pas grave si ça se perd. En tous les cas, on va le donner à lire dans l'espace public.
Pas d'élite. Dans la rue. Tout le monde qui passe dans la rue peut lire ça gratuitement.
On sort du cadre effectivement institutionnel, donc il y a déjà ça qui était très présent, qui sera quelque chose d'assez continu dans toute ta vie finalement. Je trouve que c'est assez, enfin en tout cas, quand j'ai découvert Front Unique et que j'ai pu le lire grâce à toi, grâce à tes archives, ça m'a semblé très emblématique de ce qui va déterminer en fait toute ta manière de faire dans ton existence. Avec le recul, tu pourrais pas te dédier par rapport à ça. Ça te ressemble quelque part.
Nous ne le savions pas à l'époque. Mais j'en prends un témoin, mon amie Anne Kerrien, qui est là, qui a suivi un parcours très différent du mien, mais nous sommes de la même génération. Nous ne le savions pas à l'époque. Mais nous l'avons vécu, quelque chose qui pourrait s'appeler les prémices de mai 68. C'est-à-dire un bouillonnement général, une explosion, une série ininterrompue d'explosions dont on ne comprenait pas vraiment le tenant et les aboutissants, mais on y était passionnément dévoué. Et on a vécu ça. On s'est laissé aller à une révolte absolue contre l'existant. Pas seulement l'université, pas seulement la famille, pas seulement le travail, tous les systèmes de croyances qui géraient, sur lesquels la société capitaliste s'appuyait et s'appuie toujours, étaient remises en jeu et en question. Et on ne le savait pas, mais tous ces groupes dont j'ai parlé, et bien d'autres, que je n'ai pas cités, bien d'autres encore, participer à cette espèce de d'émulation et de danse vivante qui a amené par contamination finalement la plus grande grève généralisée de l'histoire du capitalisme en mai 68, n'est-ce pas ? Nous avions le désir de tout ça, mais ça ne s'exprimait pas d'une façon très claire et très précise. Encore que un de mes collages, que je ne sais pas si tu l'as mis ou non, je ne me souviens plus, dans le bouquin, ça, de 1960, s'appelait « Grève générale, bonne odeur ».
Si, si, on l'a mis dans l'entretien.
C'était de l'ordre d'un rêve, d'un souhait, d'une utopie. Mm-hmm. Mais on ne savait pas que l'utopie allait en partie se réaliser. Mm. Tu vois Alors peut-être qu'on pourrait parler du grand tableau antifasciste
voilà.
collectif.
Peut-être si qu'on peut avancer un petit peu. C'était le deuxième temps un peu que de cette rencontre sur lequel je voulais mettre
si
l'accent.
Tu veux que j'essaye de situer la chose.
Alors justement là derrière toi, donc j'ai fait figurer la liste là des 121 signatures hein, qui ont marqué donc cette déclaration fameuse, donc un moment de la guerre d'Algérie en 1960, et peut-être peut passer juste. Une des figures sur laquelle je voulais que tu insistes peut-être d'abord, c'est une rencontre qui va jouer un rôle dans cette affaire algérienne, c'est Henri Créa. C'est quelqu'un de moins connu dans ce paysage que les figures qu'on a déjà envisagées, mais qui a eu un rôle important.
C'est un personnage incroyable.
Un personnage important
qu'on
ne
peut pas inventer.
Oui.
Créa, c'est son nom de plume.
Il y a un lien avec Mata et avec la poésie aussi.
Attends.
Voilà, je te laisse dire. Pardon.
Son nom de plume, c'était Créa. Mais son nom réel, c'était Cachin. Il était le petit-fils de Marcel Cachin, le stalinien des staliniens.
Derrière
mais
toi,
comme il en avait honte, il a changé son nom. Il était moitié algérien, moitié français. Parce que son père a fait son service militaire en Algérie, à Blida, là où précisément Frantz Fanon officiait, dans le département de psychiatrie ou d'antipsychiatrie. Et il était médecin, le père de Henri, et il a eu une histoire d'amour avec une infirmière algérienne. Et Henri est né là, à Blida, et il a pris comme nom de plume le nom de la montagne qu'il y a derrière Blida, c'est le mont Créa. Voilà. Qu'est-ce qui nous a réunis ? Le jazz. Nous avions, dans nos délires adolescents, le désir profond de jouer du jazz. Évidemment, on s'y prenait très mal. Mais on faisait ce qu'on pouvait. Lui jouait de la clarinette et moi de la trompette. Et puis on s'était mis avec d'autres qui jouaient de la contrebasse. Bref, on avait cette passion commune. Et quand j'ai créé Front Unique à Florence en 1955, je l'ai évidemment invité à y participer.
C'est un poète. De 58 derrière toi, voilà.
Un poète non négligeable. Je l'ai amené aussi aux réunions du groupe surréaliste dans les cafés. Il a signé deux ou trois manifestes des surréalistes. Breton avait l'air de l'apprécier plutôt, mais il a viré. Il a viré très tôt. Il s'intéressait beaucoup plus à Paul Éluard qu'à André Breton. Mauvais signe. Mauvais signe. Il avait voulu oublier la Staline, n'est-ce pas, de Éluard. Il aimait la poésie un peu littéraire, un peu trop littéraire pour mon goût. Mais c'était un copain. Et on s'aimait beaucoup, voilà.
Et c'est voilà, avec lui
Henri
que Créa
a participé. Il a écrit des textes importants dans Front Unique, illustrés par Héros ou non. En bref, il a été un des fondateurs aussi, cofondateurs de Front Unique, voilà. Le Front Unique était très ouvert. Il y avait des poètes beatniques comme Grégory Corso, un grand poète aussi. Comme je le disais, j'invitais les hommes et les femmes que je rencontrais qui m'intéressaient à participer. C'est dans Front Unique qu'est paru pour la première fois la reproduction d'une œuvre de Bob Rauschenberg, par exemple. Tu vois, je n'étais pas pour faire le malin la première fois, c'est simplement ça s'est trouvé comme ça.
Et dans un numéro de Front Unique, alors la version brochée, revue brochée, va apparaître, enfin tu vas glisser justement ce texte qui est derrière nous, donc la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, voilà. Qui va donc faire partie de la revue et qui va aussi faire partie de
du tableau.
Voilà, tu peux le passer. Voilà.
Alors,
derrière vous, donc le.
Pour les gens de ma génération. Oui. En tout cas, il y a un avant et un après manifeste de 121. Donc, nous sommes en 1960, en pleine guerre d'Algérie, et même de la bataille d'Alger, puisque les accords d'Évian ont été signés en 62, et on est encore en pleine guerre. Il faut que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer ce que c'était que Paris en 1960, encore moins Alger. Il y avait des attentats partout. Les commissariats recevaient des bombes et des grenades des militants algériens. Il y avait quelque chose d'absolument épouvantable et que je ne souhaite à personne de vivre, mais nous l'avons vécu, ça s'appelait des ratonnades. C'est-à-dire que quand il y avait un attentat du FLN ou du MNA, parce qu'à l'époque, il y avait encore, le MNA était encore très, très militant, et beaucoup plus à gauche que le FLN d'ailleurs, et puis il y avait une, entre guillemets, entre parenthèses, je vous dis, il y avait une interview importante de Messaliage dans le surréalisme même. Oui. Donc tout ça était lié. Hein. Donc il y avait des. Quand il y avait un attentat, et qu'il y avait un maghrébin qui rentrait chez lui après le boulot ou quoi que ce soit, les gens disaient ah, l'arabe, et tout le monde se précipitait dessus. Il y avait des lynchages en plein Paris, il faut le savoir. Cette ville, il y avait des lynchages. Et c'est quelque chose qui est inimaginable, n'est-ce pas? Et pourtant, ça a eu lieu. Ça a été vécu. Donc, le manifeste des 121, qui a été rédigé, comme tu sais très bien, par Jean Schuster, sur lequel tu as beaucoup travaillé.
Mascolo et Blanchard.
Par Mascolo, un ancien communiste et un post-marxiste de très haute qualité, et ensuite un peu par Maurice Blanchot. C'est pas rien.
Oui.
Et l'idée de ce manifeste, c'est très simple, on peut le traduire en quelques mots, c'est que quand on est appelé à endosser un uniforme d'une armée colonialiste et impérialiste et à combattre les gens qui luttent pour leur liberté, c'était notre cas, hein, parce que j'étais d'âge à être
incorporé
dans l'armée, et de beaucoup d'autres. Il n'y avait pas encore de femmes dans l'armée à cette époque-là, mais donc c'était surtout les garçons. Il n'y a qu'une solution. Et la solution, c'est déserter. Alors, ça, c'est fondamental, parce que c'est ça qui a fait un énorme scandale. Et on a été traité de tous les noms par la droite et les fascistes, évidemment, les nationalistes, les traîtres, salauds, anti-France, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et, c'est-à-dire que notre conscience personnelle qui nous a permis de signer, parce que j'ai signé aussi, comme tant d'autres, comme Sartre, comme Breton, comme Simone de Beauvoir, comme Pierre Boulez, comme Maurice Nadeau, comme Michel Léris, comme Laurent Schwartz, le grand mathématicien, et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres, ce manifeste qui appelait à la désertion. Et c'est un acte politique et philosophique de premier ordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 1960? Plein de choses. Il se trouve que un jour, pendant la bataille d'Alger, une jeune militante algérienne de 23 ans, militante au FLN et musulmane, pratiquante, et il se trouve qu'elle était vierge aussi, bon, ça la regarde, a été arrêtée par la police et accusée à tort d'avoir mis une bombe à Alger. Elle a été emprisonnée. Arrêté, emprisonné, violé. Je suis désolé de donner les détails, mais c'est comme ça, la réalité. Elle a été violée avec une bouteille de bière. Et ensuite, les tortionnaires, les paras et les flics, l'ont torturée à l'électricité, y compris sur ses organes sexuels. Et cette jeune femme, qui était innocente, elle était militante, certes, du FLN, certes, indépendantiste, certes, mais elle n'avait pas mis de bombe. Et c'est un exemple parmi des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont été torturés par les soi-disant forces de l'ordre, alors qu'il y avait un gouvernement dirigé par un soi-disant socialiste qui s'appelait Guy Mollet. C'est quelque chose qui, pour nous, était insupportable. Et j'ai été bouleversé par ça. Complètement bouleversé. Alors, tous les détails que je raconte là se trouvent tout simplement dans un livre remarquable qui est paru beaucoup plus tard chez Gallimard, qui a été écrit par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. Gisèle Halimi était l'avocate de Djamila Boupacha, qui a commis un acte d'un courage qui m'a complètement bouleversé. Voilà. On est en Algérie, à Alger, dans un pays occupé militairement et administrativement par la France, par les forces militaires françaises, elle est torturée et violée. Et au lieu de la fermer, comme des dizaines de milliers d'autres ont été terrorisés, qu'est-ce qu'elle fait avec son avocate, Gisèle Halimi ? Elle rentre dans un commissariat de police à Alger et elle porte plainte contre ces violeurs et ces tortionnaires. Je ne sais pas si on peut mesurer aujourd'hui le courage intellectuel et physique d'une femme qui commet un acte comme ça. Et elle avait évidemment été immédiatement arrêtée et de nouveau enfermée, etc. Le procès a été délocalisé et a eu lieu ensuite à Caen, plusieurs années plus tard, où elle a été confrontée à ces tortionnaires. Elle les a nommés et accusés devant le tribunal. Bon, pourquoi est-ce que ça m'a bouleversé ? Pour toutes sortes de raisons, tout à fait personnelles, parce que j'avais dans la même année, quelques mois plus tôt, une très proche amie à moi qui s'appelait Nina Teren, que j'avais connue à Venise, qui était allée faire des études d'anthropologie à Los Angeles, et elle a été violée et assassinée par un vendeur de Bibles de porte-à-porte. Et ces deux viols, ces deux viols monstrueux, comme tous les viols, criminels comme tous les viols, m'ont complètement perturbé. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de commencer à peindre sur une énorme toile de 5 mètres sur 4 mètres, c'est très très grand, ça ne pourrait pas rentrer ici, par exemple. Alors, justement, un tableau que j'ai commencé à peindre, où j'ai essayé de mettre toute ma rage et tout mon désespoir.
Alors j'ai une question, Jean-Jacques. Justement, pardon, j'ai une question par rapport à ton bouleversement. Pourquoi tu prends la décision de faire non pas un tableau tout seul, mais collectivement ? Pourquoi l'amitié collective, là, prend un sens particulier à ce moment-là pour toi ?
À cause du manifeste et à cause du fait que j'avais complètement, malgré tout, compris quelque chose de l'action politique et l'action transculturelle, c'est que tout seul, on ne peut rien faire. Le premier numéro de Front Unique, c'est moi qui ai écrit tout sur des pseudonymes, mais très vite, d'autres sont arrivés, d'autres hommes et d'autres femmes sont arrivés, et c'était beaucoup mieux quand c'est collectif. Mais puis, on est beaucoup moins seul, on est beaucoup moins désespéré, parce qu'on a avec qui discuter et échanger. Comment te dire ? Et à l'époque, c'est très important d'essayer de répondre à cette question, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, les artistes, enfin, du moins les artistes que je fréquentais moi, les poètes, les militants politiques, tout le monde se visitait les uns les autres, les unes et les autres. On allait chez l'un, chez l'une, on parlait tout le temps, aussi bien en Italie, dans les années 50, qu'à Paris, qu'à New York, que partout, au Japon. Les gens se parlaient beaucoup plus. Les artistes échangeaient entre eux. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Maintenant, c'est la carrière, c'est le business. Les gens ne se parlent plus, n'échangent pas des œuvres et des idées. Donc, on peut difficilement imaginer ce qu'était l'époque où les gens ouvertement se parlaient, tu vois. Et il m'a semblé tout à fait naturel, puisque j'étais à Milan, dans l'atelier de Roberto Crippa, qu'un tas de copains et de copines me rendaient visite pendant la journée. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux un café ? Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu peins là ? Qu'est-ce que tu fous ? Etc., etc., etc. Et alors, tu veux participer ? Tiens, voilà un pinceau, voilà de la couleur, vas-y. Et c'est comme ça que Baille, Enrico Baille, a participé. C'est lui qui a peint les deux généraux avec des médailles.
J'ai mis derrière toi donc, le grand tableau antifasciste collectif. Ensuite, avec les différents...
Il y a eu d'autres. Il y a Roberto Crippa qui a peint la swastika. Moi, j'ai peint le totem qui est à gauche. Héro est arrivé tout en dernier. Il a peint la partie tout à fait en haut à droite. Antonio Recalcati, qui faisait à l'époque des empreintes de son corps, a fait une empreinte en vert qui est dans le tableau. Et évidemment, pour que les choses soient très claires, parce qu'on ne faisait pas de propagande, bien entendu, mais on voulait que les choses soient politiquement claires. J'ai inscrit des noms de ville dans le tableau. Sakiet, c'était le bombardement de Sakiet sous Sidi Youssef. L'aviation française avait bombardé Sakiet, avait fait des centaines de morts. Constantine, c'est évidemment la prise de Constantine en 1830. Et finalement, pour que ça soit bien clair, j'ai pris un exemplaire du Manifeste des 121, que j'ai publié par ailleurs dans Front Unique, comme oui. tu l'as rappelé, et je l'ai tout simplement collé dans le tableau. Il figure dans le tableau. Donc c'était clair. Nous étions contre le colonialisme, contre la torture, et pour le droit, non seulement des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais le droit des êtres humains à disposer d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. N'est-ce pas ? Tu vois, c'était tout un programme, si j'ose dire.
Et avec ce tableau, il y a quelque chose d'autre qui démarre, puisque ça coïncide à peu près avec ta sortie, disons, du groupe surréaliste, et les premières manifestations qu'avec Alain Jouffroy, vous décidez d'appeler anti-procès.
Oui.
Alors il y en a eu plusieurs. On restitue aussi cette histoire dans le livre Front Unique, parce que ça appartient finalement à cette traversée du surréalisme et à une forme de sortie, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas une manière de sortir...
De m'éloigner.
De t'éloigner du groupe, en tous les cas. Et donc, ce grand tableau antifasciste collectif, il va être montré, justement, lors d'une de ces manifestations qui anti-procès, la troisième.
En 61.
Voilà, en 61. Et derrière, donc il y a une photographie qui juste derrière toi. On voit un certain nombre. Donc il y a Pomerol, il y a Fontana, il y a Valerio Adami, Nobuya Abe, etc., Vostel, enfin toute une Meret Oppenheim.
Des gens d'une dizaine de pays sont réunis.
Qui sont venus à Milan autour de ce...
C'est très important. C'était très international. Il y avait des hommes et des femmes plus d'une dizaine de pays. Alors, il faut quand même dire quelque chose. Que oui. Ces manifestations anti-procès, ce qui était au départ des expositions, des manifestations, étaient quelque chose de complètement innovant, de complètement différent de ce qu'on voyait partout. Pourquoi ? Parce que la plupart des expositions, même encore maintenant, ça se bâtit autour d'un thème et d'une esthétique. On met ensemble les peintres géométriques abstraits, les peintres abstraction lyrique, les peintres ceci, les peintres cela, hein, et c'est par affiliation idéologico-esthétique que les expositions, y compris au Centre Pompidou et partout ailleurs dans le monde, se construisent. Et nous, on y dit basta avec ça. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on a fait une exposition, manifestation internationaliste avec des gens de beaucoup de pays sur un thème éthique. On a basculé de l'esthétique à l'éthique. Évidemment, il y a des Spinoza là-dessous. Hein. On était des néophytes, mais des néophytes qui savaient lire et penser quand même. Et l'esthétique, on s'en foutait complètement. Les styles différents d'expression, on s'en foutait complètement. Ce qui comptait pour nous, c'était l'éthique. L'éthique de quoi ? Ben justement, le refus absolu du colonialisme et en particulier de la torture. Parce qu'il y avait beaucoup de torture, il faut le dire. Il faut le rappeler tout le temps. Il ne faut pas oublier que le Parlement français, en 1956, avait voté la loi des pouvoirs spéciaux. Qu'est-ce que c'est que la loi des pouvoirs spéciaux ? C'est la légalisation de la torture. C'est de dire aux flics et aux parachutistes qui, pendant la guerre d'Algérie, en Algérie, mais aussi en France, si vous avez besoin d'interroger des suspects en les torturant, ben, on va fermer les yeux, allez-y. C'est sous le gouvernement Guy Mollet, soi-disant socialiste. C'est cette histoire de la loi des pouvoirs spéciaux pour laquelle des parlementaires de gauche ont voté. Pas tous les communistes, mais certains communistes ont voté ça, et certains socialistes ont voté ça. C'était pas seulement la droite, c'était un nationalisme, entre guillemets, de gauche aussi. C'est pour ça que j'ai appelé le tableau « Grand tableau antifasciste collectif », parce qu'il m'a semblé, il me semble toujours, qu'une société qui légalise la torture, à l'électricité, le viol, comme celui de Jamil Aboupacha, et de dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres, était en voie, une société en voie de fascisation. C'est pour ça que je l'appelais antifasciste. Parce que quand on est contre la torture, contre le colonialisme, forcément, on est obligé, on est amené à lutter contre le fascisme au sens le plus large et le plus précis du terme. Tu vois ? Donc tout ça, c'était lié. Et encore une fois, on ne faisait pas du réalisme socialiste, pas du tout. Le grand tableau antifasciste, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut trouver ça moche, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas du réalisme socialiste. Ce n'est pas de la propagande pour le parti. On n'était d'aucun parti, d'ailleurs. Alors, mais tu vois, c'était une différente façon de penser le travail de l'artiste et de la place de l'artiste dans la société. Éthique et pas esthétique.
Cette question de la torture, d'ailleurs, t'a poursuivi. Enfin, certains, peut-être parmi l'auditoire, ont vu une de tes pièces qui s'appelle Poisson soluble, ou qui reprend cette question de la torture par rapport donc à Abu Ghraib, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est resté quelque chose de très évidemment.
Et c'est ça nous pose dans ton travail. À nous anciens ou ex-surréalistes des vrais problèmes, parce que. Tu sais, et tout le monde sait que les surréalistes ont beaucoup, beaucoup admiré l'œuvre de Sade, du marquis de Sade, n'est-ce pas ? C'est une œuvre philosophique absolument remarquable et fondamentale. Et Simone de Beauvoir, elle, a écrit un bouquin « Faut-il brûler Sade ?» Donc c'était Sade, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais vraiment torturé qui que ce soit, mais il en a beaucoup parlé dans ses romans. Et Annie Lebrun, qui est décédée il n'y a pas longtemps, admirable amie, et elle aussi ex-surréaliste, comme moi, a consacré plusieurs livres et d'expositions pour essayer de démêler cet écheveau-là. Donc c'était terrible, comme position politique et philosophique, de dire on admire l'œuvre du marquis de Sade, et je n'ai pas de difficulté à le dire, mais attention, le sadisme pratiqué par les militaires, la torture pratiquée par les militaires, les viols pratiqués par les militaires, ça, non, jamais. Tu vois, c'est difficile à faire comprendre des choses comme ça. Mais est-ce que l'art et la poésie ne sont pas là justement pour essayer d'expliquer ce qui est inexplicable ? C'est une question. Non ?
Oui, absolument. Mais c'est vrai que ce déplacement, comme tu l'as indiqué, de l'esthétique à l'éthique, alors, il était déjà un peu à l'œuvre quand même dans la pratique surréaliste de l'exposition. Pour toi, non ?
Grâce à Duchamp.
Grâce à Duchamp.
Grâce à Duchamp, le grand subversif, oui. Mais pas grâce aux groupes surréalistes, non. Parce que, donc... Tout le monde sait qu'il y a eu énormément de groupes surréalistes différents qui se sont succédés de 1924 à la mort de Breton et un peu après la mort de Breton en 1966. Le groupe surréaliste qui existait dans les années 50, auquel j'ai participé, d'une façon extrêmement intense et passionnelle. 5 ans, ça peut paraître très court. Mais en fait, c'est comme un trip du LSD. C'est tellement intense, ça te fait vivre des choses d'une façon tellement bouleversante et bouleversée que c'est beaucoup plus que 5 ans, finalement. Le temps s'allonge comme du chewing-gum, tu sais. Et donc,
pendant cette période,
c'était à l'œuvre, mais c'était aussi pas à l'œuvre. Le grand exemple, c'est l'exposition internationale du surréalisme de 1938, à laquelle Duchamp, Breton, a fait appel à Duchamp. Ils étaient très amis, très très proches. Mais Duchamp n'a jamais été membre du surréalisme. Il n'a jamais adhéré au surréalisme. Il était dada, il était solitaire. Mais leur relation d'amitié est très forte. Faisait que de temps en temps, Breton faisait appel à lui. Et pour l'exposition 38, Duchamp a eu cette idée absolument géniale de plonger l'entière exposition, où il y avait des chefs-d'œuvre, ce n'est pas la peine de les rappeler, on les connaît, à la galerie du Faubourg Saint-Honoré, la galerie des Beaux-Arts. Et il a plongé l'exposition dans le noir. Il a coupé l'électricité. Et il a fait distribuer à l'entrée des petites lampes électriques de poche qu'il donnait à tout le monde, en disant, voilà, maintenant c'est à vous de travailler. C'est à vous de découvrir l'exposition.
C'est cet esprit dada que tu as voulu réactiver à travers les antiprocès. Et puis,
absolument.
Et peut-être jusqu'à pas, maintenant.
Non seulement que nous l'avons voulu, c'est que Duchamp et Maneret et Max Ernst, qui venaient voir mes happenings dans les années 60, c'est eux qui m'ont dit ça. Moi, je n'aurais jamais osé dire une chose pareille. J'étais trop...
Ben là, on est un peu...
Mais eux m'ont dit ça. C'est l'esprit dada qu'on retrouve ici. Ça nous a évité le désespoir.
On voit là justement une autre photo de l'Antiprocès 3 avec, tu parlais de Robert Rauschenberg, on le voit avec Daniel Pommerol.
Et on voit le grand tableau au fond.
Oui.
Et sur la gauche, aussi. Derrière Rauschenberg, on voit un petit bout d'un très beau tableau de Matta qui s'appelait La question.
On le voit à côté.
Et La question d'après le livre de Henri Alleg, qui lui aussi avait été torturé par les paras à Alger. Il a publié aux éditions de Minuit un petit livre très important qui s'appelle La question.
Préfacé par Sartre.
Et Matta a pris le titre et en a fait un tableau. Alors, il y avait le grand tableau antifasciste au fond, à gauche, le tableau de Matta, et à droite, un tableau de Héroux qui s'appelait le massacre de Sharpeville, en Afrique du Sud, où les partisans de l'apartheid, les militaires néo-nazis de l'Afrique du Sud, ont tiré à la mitrailleuse sur les grévistes. Il y avait plusieurs centaines de morts. Donc, l'antiprocès, c'était le retour du refoulé, si j'ose dire. C'était la prise de position et la prise de conscience que nous vivions dans un réel qui était inacceptable.
En 1961, une telle exposition en France montant de tels tableaux était impossible, inimaginable.
Le tableau a été saisi par la police.
Et en Italie,
pendant
26
ans.
Il a été saisi malgré
tout. Sur dénonciation du consulat de France de Milan.
Et pour quelle raison, tu peux nous rappeler, pour quelle raison il a été saisi? Parce que finalement...
C'est un prétexte.
Oui.
Sous le prétexte que c'était anti-religieux, qu'on y voyait l'image du cardinal Ottaviani, qui était un salopard du Vatican, qui était, mais c'était un simple prétexte.
Ils n'ont pas retenu ils n'ont pas retenu le motif anticolonial, finalement.
Il fallait surtout pas en parler. Il fallait étouffer le côté anticolonialiste et anti-torture, bien entendu. Donc, ils ont pris le prétexte de l'anti-curé, n'est-ce pas? Donc, le tableau a été saisi par la magistrature de Milan pendant 26 ans, plié comme un mouchoir, et foutu sur une étagère à la préfettura de Milan, et oublié. Voilà. Et on l'a récupéré que pratiquement 30 ans après. Et maintenant, il est exposé dans le monde entier. Surtout en Europe, en ce moment il est exposé à Munich, à la Lenbachhaus. Il y a une exposition qui s'appelle Surréalisme et anticolonialisme. C'est bizarre. Tout d'un coup, on redécouvre l'anticolonialisme, qui pour nous n'a jamais cessé d'être pratiquement notre raison d'être, n'est-ce pas?
Et tu disais, effectivement, pour revenir sur ce déplacement de l'esthétique à l'éthique, il est essentiel. C'est ce qui peut-être te conduit encore dans ta pratique du montrage aujourd'hui. On peut quand même le dire aussi aux auditeurs qu'actuellement au Centre Pompidou, il y a une exposition autour de ton fonds de dotation qui s'appelle Chaos Mose, qui est un hommage sur lequel tu vas pouvoir revenir et qui aussi ne se préoccupe pas véritablement des catégories esthétiques.
Mais surtout pas.
Qui est animé
surtout
par
pas.
Une même préoccupation d'ordre, disons, qu'on pourrait
surtout
dire d'ordre
pas.
Éthique.
Chaos Mose, donc, est au quatrième étage du Centre Pompidou comme une espèce d'aberration anormale, n'est-ce pas, comme toutes les aberrations. Qu'est-ce que ça fout au Centre Pompidou, on se demande. C'est une erreur géniale, voilà. Évidemment, Chaos Mose, tout le monde le sait, est un jeu de mots inventé par James Joyce dans Finnegan's Wake, que mon très cher et très proche ami Félix Guattari a emprunté à James Joyce, et en a fait le titre de son dernier ouvrage, paru de son vivant, et qui est un livre extraordinaire et tout à fait d'actualité, qui a été réédité d'ailleurs récemment. La première édition, c'était en 72, et elle a été rééditée il y a 2 ans. Et donc, c'est plus qu'un hommage à Félix, c'est la mise en perspective socio-picturale de la chaosmose. Je pourrais peut-être oser dire ça, je ne sais pas. C'est une tentative de visualisation de la chaosmose, ou du chaosmose, n'est-ce pas ? Et comme tu dis, il n'y a aucune catégorie n'est respectée, aucune chronologie, aucun sectarisme technologique ou idéologique n'est respecté. On prend tout ce qu'on aime dans le monde entier, pas seulement en Europe, hein. Au Japon, en Mélanésie, en Afrique, partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de patrie. La chaosmose ne connaît pas le patriotisme. Ça n'existe pas, ce genre de catégorie-là. Donc, on essaye de montrer la pensée telle qu'elle surgit sous forme d'œuvres d'art, sous forme de poèmes, sous toutes les formes possibles et imaginables. Malheureusement, étant donné que c'est un musée, c'est ça, donc un énorme appareil bureaucratique, écrasant, pachydermique, il manque des choses à cette exposition, notamment la dimension sonore. C'est quand même scandaleux, mais c'est comme ça. Les 9/10 des participants et des participantes à cette exposition que nous avons choisie étaient des poètes. Des hommes et des femmes qui écrivent et qui font de la poésie, n'est-ce pas ? Artaud, Michaud, Victor Hugo, qui pour la première fois rentre dans un musée d'art moderne, Victor Hugo, Apollinaire, Michaud, je l'ai déjà dit, Gerasim Luka, enfin, Unikatsun, enfin, je ne vais pas citer tout le monde, il y en a pour une demi-heure. Tous ces gens étaient en même temps des plasticiens, des plasticiennes et des poètes. Donc, il aurait fallu quand même entendre leur voix dans l'exposition. Eh bien non, figurez-vous. On nous a dit non, ça ne se fait pas dans un musée. Donc, il faut quand même avoir le courage de critiquer la bureaucratie, parce que sinon, si on accepte, n'est-ce pas, la servitude volontaire, comme disait la Boétie, on est foutu. Donc, pas question d'accepter la servitude volontaire, pas question.
Néanmoins, elle garde quand même une certaine, oui. Il y a quand même une certaine fidélité avec oui. Cette.
Il y a une hauteur de vue.
Voilà, si il y a une hauteur de vue qui permet de faire quand même certaines distinctions oui. entre oui. ce quatrième étage et puis ce qu'il y a au-dessus. Et je voulais finir cette présentation par une petite citation que j'emprunte à deux de tes amis, hein, Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux, qui évoquent le rhizome, cette notion comme antigénéalogique, voilà, qui procède par variation, expansion, conquête, capture, piqûre, contre les systèmes centrés. Ça me semblait assez, ce terme de rhizome, il me semblait assez fondamental, effectivement, pour résumer ce qui, en quelque sorte, s'initie avec Front unique dès 1955 et qui va conduire l'ensemble de... Avec quoi tu vas vivre, finalement ? C'est en faisant constamment ce que Deleuze et Guattari vont finir par appeler ce rhizome, par ce terme de rhizome.
C'est très juste ce que tu dis, et c'est d'autant plus juste que ça nous amène, nous, les femmes et les hommes, qui sommes vivants dans ce mouvement rhizomatique, à nous transformer au fur et à mesure. Je voudrais quand même... terminé en rendant alors carrément un hommage à Félix Guattari, parce que c'est un écrivain remarquable, qui est producteur de néologismes extraordinaires, hein, grand théoricien et grand militant aussi. Alors, je ne vais pas citer tous ses livres, tout le monde les connaît. Mais ce qu'on sait un peu moins de lui, c'est qu'il a osé, en tant que psychothérapeute, en tant que schizanalyste, laisser tous ces métiers-là, celui d'écrivain, de théoricien, psychothérapeute, pour devenir artiste. Quand on a fondé Polyphonix, qui est une société de poésie vivante, qui a duré 40 ans, qui dure encore aujourd'hui, qui a nomadisé à travers plusieurs continents, qui a regroupé des milliers d'artistes, d'hommes et de femmes, de toutes sortes de tendances, de poésie sonore, la poésie la plus classique, la musique, la peinture, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Félix ? Il a laissé tomber tout ce qu'il faisait, et il est monté sur scène. Il a fait ce qu'on appelle des performances, avec nous, les artistes, sur scène. Pas une fois, plusieurs dizaines de fois. Et il l'a fait avec d'autres, avec Tana Kamin, à l'Opéra Comique. J'ai pris des photos de ça. Et on voit Félix qui arrive sur scène à l'Opéra Comique. C'est un autre Félix, n'est-ce pas ? Ce que je voulais dire par là, c'est que nous avons tous et toutes plusieurs êtres en nous. Et il est temps qu'on s'en aperçoive et qu'on les laisse parler. Voilà. Et Félix l'a fait. C'est pour ça qu'au fond, ce livre, de même que l'exposition Chaos Mouz, est en quelque sorte un hommage à Félix.
Merci beaucoup Jean-Jacques, merci à tous donc, pour votre présence.